Et ouvrons ensemble nos Bibles dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 3. Avant de considérer ce chapitre en détail, notons quand même quelques pensées sur la signification spirituelle de ce récit. De l'édification de la muraille et la restauration des portes de Jérusalem. Les leçons spirituelles sont claires. Premièrement, il y a un rempart, il y a une muraille à bâtir autour de la ville de notre âme. Deuxième chose, il y a un rempart, il y a une muraille de témoignage qui doit s'élever autour de l'assemblée des frères et sœurs. Ce qui compose le corps de Christ. Et troisièmement, il y a un rempart, il y a une muraille de témoignages à ériger autour du royaume de Dieu dans le monde. Alors que nous nous efforcions soit de bâtir un rempart autour de notre âme, autour de notre assemblée, d'ériger ce témoignage pour le royaume de Dieu, on découvre bien rapidement qu'il n'y a aucun gain sans combat. Il n'y a pas d'opportunité sans opposition. Il n'y a aucune victoire et succès sans vigilance et travail acharné. Car chaque fois que le peuple de Dieu se mobilise, se lève et déclare « Levons-nous et bâtissons », l'ennemi se manifeste. Et lui déclare, je me lèverai et j'opposerai. C'est un combat spirituel de grande envergure. Et c'est une autre vocation pour nous qui aimons Jésus-Christ, qui attendons son retour. C'est à nous, son peuple, d'œuvrer, de travailler à l'édification de nos âmes. Bien sûr, c'est lui par son esprit qui nous fortifie, mais nous sommes le temple de Dieu. Et l'édification de l'Assemblée aussi nous engage à construire, à bâtir sur le seul fondement qui est Jésus-Christ. Je vais vous lire un commentaire du Nouveau Testament sur ce rapport remarquable de la reconstruction des murailles que Néhémie donne, cette restauration des portes de Jérusalem dans le livre de Néhémie, mais ce commentaire nous le trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Je vous invite à trouver ce passage. 1 Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Jour avec un grand J. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un en est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et ce nous donne le tremplin maintenant pour aborder les principes spirituels qui émanent de ce récit du relèvement et des murailles de la ville de Jérusalem et la restauration des portes de la ville. Qu'est-ce qu'une muraille? Vous me direz, c'est un grand mur. Exactement. Mais les murailles sont à la fois une séparation avec ceux du dehors et une défense contre les attaques de l'ennemi. Elles entourent. Elles sont censées enfermer la cité pour la constituer comme un ensemble. Elles forment donc cette unité ayant sa manière, sa gouvernance, se suffisant à elle-même, hein, séparée des éléments étrangers. Et cela garantit qu'il n'y a pas de mélange, pas de compromis. Et à Jérusalem, les murailles enserraient en même temps le peuple de Dieu, et aussi défendaient le temple, le sanctuaire, qui était à l'époque de Néhémie encore à reconstruire. Et les murailles sont aussi, comme je viens de le dire, un moyen de défense. Elles repoussent les assauts de l'ennemi et servent à notre sécurité. Si nous appliquons cette description aux circonstances actuelles, nous en voyons aisément l'importance. La cité de Dieu, son habitation, c'est son assemblée. Et c'est un grand chantier que le Seigneur lui-même entreprend de bâtir. Et il le dit bien, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas résister, prévaudre contre elles. Rien ne peut empêcher l'avancement du royaume de Dieu. Parce que Dieu, c'est son œuvre. Mais il nous appelle chacun aussi à être des ouvriers avec lui. De nous tenir dans les brèches. De les boucher. De restaurer. Et si nous avons la perspective divine comme Néhémie avait, nous comprendrons qu'il est urgent, urgent de rassembler ceux de la cité pour travailler à l'unité visible. Parce que si Néhémie avait voulu attendre que tous les habitants de Jérusalem et ceux qui étaient dispersés aux alentours, voire même plus loin dans la Perse, la Médie et la province de Babylone, qu'ils réintègrent leur domicile pour entreprendre la construction de la muraille, sa mission aurait été vaine et son activité sans emploi. Car une fois que ces brèches étaient comblées et les portes restaurées, la cité est enclose. Et comme le récit biblique le montre, Dieu ne la laisse pas déserte. Et son esprit a su réveiller dans le cœur de ceux à qui Néhémie s'adressait pour réveiller leurs ailes pour cet ouvrage. Et nous comprenons encore qu'en présence de l'opposition sous toutes ses formes, de l'assaut livré par le monde sous la conduite de l'ennemi de nos âmes, de Satan, il veut empêcher les fidèles de tenir ferme pour Christ. Mais nous avons à poser nos pieds sur Christ, le fondement. Nous avons à rebâtir cette muraille qui nous préserve. Bien sûr, cette muraille, dans le sens propre, en fait, c'est Dieu, c'est Christ, c'est sa parole. C'est lui notre forteresse, notre lieu fort, notre refuge. C'est lui notre salut. Et c'est lui qui reçoit notre louange. Dans Zacharie, chapitre 2, verset 5, voici ce qui est évoqué concernant la détresse à Jérusalem. Et c'est Dieu même qui parle. Je serai moi-même pour elle, oracle de l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Dans Jérémie 15, verset 20, voici ce qu'il déclare, « Et je ferai de toi, en face de ce peuple, comme un rempart de bronze inébranlable. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. Je te protégerai et je te délivrerai, l'Éternel le déclare. » Encore un autre texte, Ésaïe 60, Verset 18, « Tu donneras à tes murailles le nom de salut et à tes portes celui de louange. » Ésaïe 26, verset 1er, « Nous avons une ville forte, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Voilà les murailles, on leur donne le nom du salut, et les portes, celui de louange. Et c'est ça que nous devons restaurer, relever, dans nos vies, dans l'Assemblée, et le répandre à toutes les nations. Mais notre travail ne consiste pas seulement à relever, à combler des brèches, il nous faut aussi nous occuper des portes. C'est important. Et l'ennemi savait bien ce qu'il faisait quand il a consumé les portes de Jérusalem par le feu. C'est ce qui était dit au chapitre 2 de ce livre. Autant que la muraille, plus même qu'elle, les portes d'une ville sont d'une importance capitale. Elles peuvent être ouvertes pour laisser entrer et sortir librement les habitants de la cité, mais aussi pour être fermées, pour exclure tout élément étranger, coupable, contagieux ou criminel qui voudrait venir y élire domicile. Les portes sont fermées la nuit pour que les citoyens ne quittent pas la ville à l'heure du danger, mais qu'ils puissent se reposer en paix. Ne rien laisser entrer qui soit contraire à la loi de la ville, de la cité, et surtout empêcher l'introduction de traîtres qui, profitant d'un relâchement de surveillance, pourraient les ouvrir à l'ennemi. De même aussi, notre âme et notre assemblée possèdent des portes par lesquelles le monde et les convoitises de ce monde, les doctrines, les mensonges, les hérésies, les faux frères veulent s'introduire. Et c'est à nous de les repousser par la vérité que Dieu nous a donnée. Mais il faut que ces portes soient ouvertes à tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de Christ, tout ce qui est de sa parole. Et nous comprenons enfin que notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de vivre une vie séparée d'avec le monde. Vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Et saint veut dire séparé. La famille de la foi. Nous sommes cohéritiers avec Christ, concitoyens des cieux. Et tout mal, quelle que soit la forme, que le mal, comment il se présente, que ce soit individuel ou collectif, que ce soit un mal moral ou doctrinal, religieux ou bien mondain, charnel et terrestre, il faut qu'il soit repoussé et que ses portes soient fermées à ces choses, afin que notre famille spirituelle soit protégée et visible aux yeux du monde, afin d'être reconnue de ce dernier. Levons-nous et bâtissons, dit Néhémie et le peuple. Et bien sûr, il ne faut pas juste regarder à l'immensité ou à l'impossibilité de la tâche à accomplir. Vous savez, l'impossibilité, c'est le fait de l'homme. Jamais celui de Dieu. Toutes choses sont possibles à Dieu. Et ce qui est impossible aux hommes l'est pour Dieu, est possible pour Dieu. Et même si nous sommes qu'un faible nombre, peut-être un ou deux, trois, à bâtir vis-à-vis de notre maison, Dieu nous approuvera et sa bonne main sera sur nous. Ce sont les propos que nous trouvons dans ce chapitre 3. Et ce récit nous révèle un esprit d'entente, un grand enthousiasme pour ce projet, avec des proportions immenses. Mais chacun a un ouvrage particulier. Chacun a une section de la muraille à rebâtir. Et si vous connaissez un petit peu l'historique de Jérusalem, en partant de la porte des brebis, ces quelques versets nous donnent un aperçu des travaux. En suivant les aiguilles d'une montre, du sud à l'ouest, puis du nord à l'est, pour revenir ensuite à la porte des brebis. Et chacun est à sa place. Chacun a sa tâche. Unis quant à l'objectif final. Quelle image frappante. Et notons bien le parallèle que cela trace pour nous. Et j'aimerais attirer notre attention sur une phrase qui revient par quatre fois dans ce chapitre 3. D'abord, le verset 10, on lit « Il travailla vis-à-vis ou devant sa maison ». Verset 23, « Il travailla vis-à-vis ou de devant sa maison ». 29 et 30, « Il travailla vis-à-vis de devant sa maison ». Et c'est ici que chaque œuvre véritable pour Dieu doit prendre son envol, ses racines, vis-à-vis de sa maison, son foyer. Une assemblée n'est jamais plus dynamique et plus forte que les familles qui la composent. Et une famille spirituelle est composée de familles et d'individus physiques. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, nous rappelle comment cela doit être mis en place et vécu. Nous lisons Éphésiens 4, 15, « Ainsi nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards jusqu'à ce que nous soyons pleinement atteints à sa mesure. Car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit d'amour, à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Alors on pourrait dire que l'amour dans une assemblée, c'est un peu l'engrais de la vérité. Elle permet à la vérité de germer dans un cœur. En attitude, en parole, en comportement ou bien en geste. Elle exprime tout ce que la simple proclamation de la vérité ne peut exprimer. Parfois, une personne se trouve confrontée aux conséquences de ses choix, mauvais choix et ses actes. Et c'est la galère, c'est la misère. La vérité voudrait dire « ah oui, parce que ». Mais l'amour saurait se taire. Et il y aura compréhension pour aller vers cette personne qui souffre et pour l'aider. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Vérité, amour. Et ça va de pair avec le texte que nous avons lu dans le psaume 85. Il est dit, la bienveillance et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Et il est très rare de trouver cet équilibre. Ceux qui sont principalement concernés par la vérité sont parfois peu aimants, je dirais même un peu durs, cassants. Et ceux qui ont une tendance naturelle à être aimants ont un peu parfois un peu de soucis pour la vérité. Mais le texte nous dit qu'il y a, s'il y a vérité et amour, alors il y a croissance en Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église. Et cette croissance a lieu à tous égards, pas en nombre de personnes, mais en qualité de vie personnelle, en qualité de vie relationnelle, avec Dieu d'abord et les uns avec les autres. Tout dans la direction du Christ. C'est comme un enfant qui met un vêtement trop grand pour lui. Mais en grandissant, il commence à remplir ce vêtement. Paul nous rappelle encore et encore que l'Église tire sa croissance, sa vie de Jésus-Christ. Il est la tête, le chef. Et l'Église tire son ordre, sa cohérence et sa croissance. Et le Seigneur agit pour tirer ça de chacun. Et c'est dans l'intimité des foyers, entre mari, femme, parents et enfants, que doivent être partagées les joies et les peines. C'est là que la fidélité de Dieu dans la vie de chacun se révèle et que ses bénédictions viennent. C'est donc là que nous devons commencer dans notre œuvre pour Dieu vis-à-vis de notre maison. Et en examinant les versets qui se rapportent à ceux qui travaillent à la reconstruction des murailles, c'est intéressant de voir la signification de leur nom. En hébreu, le nom d'un individu était révélateur du caractère même de ce dernier. Tout comme les noms attribués à notre Dieu nous révèlent son caractère, ce qu'il est de lui-même. Et il y a quatre vérités, quatre principes à appliquer à notre vie de famille physique et spirituelle. Le foyer et l'assemblée. Et se dégagent ces quatre versets. Verset 10. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Yedaya. Yedaya, celui qui invoque, est la signification de son nom. Et qui est-ce qu'il invoque ? Dieu, bien sûr. Son premier soin, c'est de préserver sa famille des invasions de l'ennemi. Et de même pour les autres versets que nous allons voir, Benjamin, Hashub, Azaria, au verset 23, pour les sacrificateurs et Tzadok, au verset 29, et pour Meshulam, au verset 30. Tous ceux-là ont à cœur de commencer et se mettre à l'œuvre et mettre leurs proches à l'abri. Et combien en tout temps cela est désirable et profitable pour le peuple de Dieu. Comment se poser en défenseur du peuple de Dieu si on ne sait pas préserver sa propre maison du mal? La question qui se pose à nous est celle-ci. Dans quel état se trouve le rempart de prière dans ta vie personnelle, dans ton foyer? Quelle part y accorde-t-on? Avons-nous un moment quotidien pour être seul à seul avec Dieu, puis un autre moment de la journée pour réunir nos bien-aimés et de s'agenouiller ensemble dans la prière? Le culte de famille est primordial et c'est la clé pour préserver cette famille. Ne permettons pas aux activités, à la fatigue, l'affairement, les préoccupations, aussi importantes et louables soient-elles, même notre service pour Dieu, ne pas permettre à ce que notre activité vienne à étouffer notre vie de prière individuelle et collective. Il a été dit maintes et maintes fois que la prière est la respiration de l'âme. Qu'arrive-t-il si physiquement nous nous arrêtons à respirer? On devient faible et on s'étouffe, et puis pire encore. Soyons de ceux qui invoquent Dieu. Et si je vous laisse un défi, après toutes ces années parmi vous, c'est construisez votre autel familial. Le rempart autour de vos vies, de vos proches et des frères et sœurs en Christ de l'Assemblée. Verset 23. Non seulement la prière, mais la protection. Derrière eux, Benjamin et Hashoub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Et si vous lisez le texte, on ne va pas le faire tout le texte ce matin, mais depuis le verset 22, on rencontre les sacrificateurs. Benjamin, qui lui va prendre part à la dédicace de la muraille au chapitre 12. Hashoub, qui veut dire associé, signifie, signe lui l'alliance au chapitre 10. Et Azaria, de un mot composé, Azer, c'est aider, et Yah, Jéhovah. Et Dieu qui, comme Benjamin et Hashoub, cherche à préserver la maison. Sa maison est très particulièrement distinguée plus tard. Azaria va expliquer la loi au peuple au chapitre 8 et prendre part à la dédicace de la muraille. Alors Benjamin, Benjamin signifie, vous le savez, fils de ma main droite, fils de ma droite. C'est-à-dire celui qui est présent pour protéger. Dans Deutéronome 32, 12, voici ce que l'Éternel dit sur Benjamin, la tribu de Benjamin. Il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il demeure en sécurité auprès de lui. L'Éternel l'abrite toujours et demeure entre ses épaules. Voilà la merveilleuse protection que Dieu nous accorde. Alors, qu'est-ce qui nous assure cette assurance de la sécurité et la protection dans nos vies, dans notre foyer? Telle est la bénédiction que seule la présence et la puissance du Seigneur peut nous apporter. Là où non seulement il n'est pas reconnu des lèvres, mais reconnu dans les cœurs comme souverain maître. Là où on lui permet d'accomplir sa volonté. Là où chacun cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cette protection spirituelle absolue réside sur la vie de famille, sur une assemblée qui est soumise au Seigneur. Alors, cela ne nous épargne pas des épreuves, des attaques, de la maladie, de la souffrance, ni de la mort, mais elle nous délivre toujours de l'anxiété, de l'inquiétude et de la crainte. Toujours. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu. Ne vous inquiétez pas pour le reste. Je m'en charge, dit Dieu. Cherchez, premièrement, mon royaume et ma justice. Donc, priorité, les aspirations doivent aller vers Dieu. Et cela veut dire aspirer à y entrer. Ça veut dire se soumettre à celui qui règne dans ce royaume. Vivre selon le maître. Et cela veut dire aussi participer à la croissance de cette œuvre merveilleuse que le Seigneur accomplit. Alors que notre vie reflète cette réalité et que ceux qui nous entourent. Et quand nous voyons certains qui sont sur un fil entre l'enfer et le paradis, nous avons un rôle à jouer pour que Dieu les attire du côté
du paradis. Et parfois, il faut agir comme des pompiers. Il faut les arracher du feu pour les sauver. Toutes les nécessités de la vie, la parole est claire. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa grâce. Du moins, si notre cœur aspire tout d'abord à aimer et servir Dieu. Sinon, c'est un autre royaume qui va envahir nos pensées, qui va préoccuper notre attention, orienter notre vie. Et nous sommes ainsi faits qu'il nous est impossible de poursuivre deux passions, impossible de vivre selon deux normes, de servir deux royaumes ou de servir Dieu maître, deux maîtres. Il nous faut servir le Seigneur de gloire. John Stott a écrit ceci sur ce point. Il dit, en fait, tout comme il n'existe que deux sortes de piété, l'une centrée sur soi-même et l'autre centrée sur Dieu, ainsi il n'existe que deux sortes d'ambition. Un individu ne sera ambitieux que pour lui-même ou pour Dieu. Et ce passage me fait penser à Marthe et Marie dans l'évangile de Marc. Devant des tâches essentielles pour la bonne marche de préparer ce repas pour Jésus et les disciples, Marthe, elle s'agite, elle s'inquiète de choses nettement moins importantes. Marie, elle est assise aux pieds du Seigneur. Elle a choisi, dit la parole, la bonne part. Et pour cela, elle remporte l'approbation du Seigneur sur son choix. Que Dieu nous aide à centrer nos vies, nos pensées sur les choses de Dieu. Alors, il y a déjà la prière, la protection, mais aussi l'intégrité. Verset 29. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Alors notons que Tsadok, dont le nom signifie juste ou droit, est le fils d'Imer. Et Imer signifie raconteur. C'est bien le contraste entre le père et le fils, là. Y a-t-il d'armes plus redoutables et destructrices que la langue ? Combien importe que le rempart de vérité, d'intégrité, de droiture, de la justice soit présente sur nos lèvres, préservée dans nos cœurs, dans notre foyer, dans notre assemblée. Replaçons cela dans nos cœurs lorsque nous avons envie de dire une chose méchante ou médisante sur un frère ou une sœur. Ou de les regarder de haut. Qu'en est-il de cette intégrité, cette droiture dans nos vies? Parce que là où demeure l'amour et la vérité, la dévotion, le respect et l'amour pour Dieu et pour le prochain, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Éphésiens 4, 29 est très clair. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Puis Colossiens 4, 6 reprend sur cette même vérité, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, accompagnée de celle, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La constance, la fidélité dans notre comportement est suivie de la même constance et de fidélité dans nos paroles, tout ce qui sort de notre bouche. Ici, l'accent n'est pas sur la proclamation de l'Évangile, mais sur la manière de parler. La bouche de la personne qui a revêtu la nature nouvelle doit proférer le langage de la nature nouvelle, le langage de la perfection qui l'accompagne, pas le langage de la personne non régénérée dont la liste des aspects du mauvais langage est donnée au chapitre 3 de Colossiens. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, parole grossière. Mais une parole accompagnée de quoi ? De grâce. Un langage gracieux, en dépit de la persécution, en dépit du stress, de la difficulté ou de l'injustice. Alors que ce soit avec nos enfants, notre conjoint, nos parents, nos voisins, avec les frères et sœurs de l'Église, et même envers ceux qui nous veulent du mal ou qui nous persécutent, la parole est claire, bénissez, ne maudissez pas, bénissez. Notre bouche doit communiquer ce qui est saint, spirituel, ce qui convient à un enfant de Dieu, ce qui est bon, ce qui est sensé, ce qui est utile, ce qui est vrai, ce qui est aimant, une parole accompagnée de grâce. Puis l'apôtre ajoute « assaisonné de sel » afin de nous faire comprendre que les paroles pleines de grâce doivent produire un effet. Le sel sert à beaucoup de choses. Sur une plaie, le sel, ça fait quoi ? Ça fait mal. Il y a du mordant, là. Elle pique. Mais après, la douleur, elle guérit. Le sel rehausse le goût des aliments que nous consommons. Et le sel sert aussi à prévenir la corruption. Ainsi, mon langage, ton langage, doit avoir un effet purificateur qui écarte la corruption ambiante, qui ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Alors posons-nous bien la question, qu'est-ce qui sort de ma bouche après le queue de poisson sur la route ? Qu'est-ce qui sort de ma bouche lorsque les enfants désobéissent pour la 30e fois le même jour ? Eh oui. Il faut que les paroles qui sortent de notre bouche soient la prière, la proclamation de l'Évangile, les paroles de perfection. Et par la grâce de Dieu, que notre vie soit le parfum de Christ. Christ en qui nous avons tout pleinement et en nous soumettant à lui, en nous laissant remplir de son esprit, que nos lèvres prononcent ces paroles au bon moment, à la bonne personne, dans les bonnes circonstances. C'est de cette manière-là que la nature nouvelle, la nouvelle créature en Christ parle. Une vie qui respire la confiance et le respect et dont les propos, assaisonnés de sel, donc de vérité, répandent la grâce. Pas des racontages, des critiques ou des calomnies. Si le rempart d'intégrité et de droiture est battu en brèche, cela ne fait que jeter l'opprobre et le déshonneur sur Dieu lui-même et sur son peuple. Quatrième point, le dévouement. Verset 30. Meshulam, fils de Berekia, travaillait en face de sa demeure. Meshulam, son nom signifie celui qui est dévoué. Il est fils de Berekia, et le nom de Berekia signifie « l'Éternel a béni ». Le dévouement, la dévotion de ceux qui œuvrent pour Dieu, pour son honneur et pour sa gloire, se trouve béni de l'Éternel. permettant à ce rempart de témoignage de s'élever et les brèches de se refermer. Meshulam n'est pas insignifiant dans cette entreprise. Peut-être qu'il n'a qu'un simple logis, une simple demeure. Le fait que la muraille contourne toute la ville. Mais il ne peut avoir de brèche pour que Dieu accomplisse son dessein. Cette séparation avec ceux du dehors est une défense contre les attaques de l'ennemi. Elles entourent, elles enferment et servent à constituer comme un ensemble. Et la contribution dévouée de chacun est essentielle. S'il y a des failles, s'il y a des brèches dans la muraille, que fera l'ennemi? Il va s'engouffrer. Il trouvera l'accès. La plupart de ces hommes acquièrent, comme on vient de voir, un bon degré par leur zèle à édifier la muraille de la cité de David. Et leur exemple nous permet vraiment de tirer une leçon pour nous-mêmes. Le mutisme et l'incapacité de tant d'enfants de Dieu dans leur service pour Dieu provient en partie de ce qu'au début, lorsque Dieu place devant eux une œuvre à accomplir pour lui, quelque chose qui requiert des sacrifices, des efforts, de l'intercession, de la persévérance, de l'intégrité, le dévouement et sacrifice de temps. Ils préfèrent, comme les Tekonites, ne pas plier leur cou au service de leur Seigneur. C'est au verset 5 de ce chapitre, il dit « Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables refusèrent de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre. » Alors, écoutons l'appel qui est lancé. Levons-nous et bâtissons. Prions pour préserver et protéger nos cœurs, nos pensées, protéger nos familles, nos enfants, petits-enfants, protéger nos frères et sœurs en Christ et rechercher la droiture, la justice et vivre la pureté en étant entièrement dévoué à notre Seigneur. C'est là le point de départ d'un service et un ministère efficace pour Dieu. Et ce chapitre 3 de Néhémie nous donne la feuille de route, celle que nous devons suivre. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter ensemble. Un ancien cantique, peut-être c'est ancien ne veut pas dire qu'on le connaît, pour certains, mais c'est le chant « Travaillons et luttons ». Soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir.